20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Qui n'a pas en mémoire la fameuse pierre de Ptolémée V, Rosette, exhumée en 1799 et trônant désormais au British Museum? On connaît surtout le caillou Michaud, découvert dans les environs de Bagdad 13 ans plus tôt, premier texte cunéiforme arrivé en Europe et toujours exposé au Louvre. Aujourd'hui, tout angulaire, la pierre d'Angoulême émerge d'un passé encore plus lointain. Qui aurait pu soupçonner que sous une fabrique de faïence, les berges de la Charente conservaient secrètement un message issu des abysses du temps? Pas même Miguel Biard en aurait rêvé autant. Et pourtant, cette découverte est sans nul doute la grande trouvaille de l'année 2019, celle qui suscite émerveillement, mais aussi nombre de questions vieilles de 12 000 ans. Pour découvrir cette étonnante plaque de grès, l'ultime représentante d'un art figuratif paléolithique finissant, j'ai rencontré dans Paris son découvreur, Miguel Biard de l'INRAP, et Valérie Ferruglio de l'unité PACEA du CNRS de Bordeaux.
Cette plaquette a été découverte 3 jours avant la fin de la fouille, le 20 novembre exactement. Nous étions dans une période où nous devions terminer la fouille. Il nous restait quelques mètres carrés à fouiller avant de terminer cette fouille. Et c'est pendant la fouille de ces derniers mètres carrés où on a eu la chance de découvrir la plaquette d'Angoulême.
Elle apparaissait comment ?
Elle est apparue bien au centre de ce qu'on a appelé, nous, le sable jaune, donc la couche asilienne, associée à du matériel, à des silex asiliens, donc aucun souci concernant la fiabilité de la position de la plaquette dans la stratigraphie. Et elle est apparue grâce à un léger coup de mini-pelle mécanique, mais qui n'a pas endommagé, bien entendu, la plaquette. Et lorsqu'on a accroché et écrété cette pièce, on l'a tout de suite, bien entendu, mise de côté, vu l'aspect étonnant qu'elle avait par rapport au reste des pierres choisies par les préhistoriques. Et elle a été déposée et conditionnée en bonne et due forme.
Alors un grès, c'est quelque chose d'assez étonnant, puisque normalement, ce que vous avez, c'est essentiellement des silex.
Alors oui, alors ça reste un grès siliceux. Éventuellement, ça aurait pu être un matériau utilisé par les préhistoriques pour produire des outils. Sauf que là, en effet, elle possède quand même un état de surface, un état physique étonnant, en tout cas propice à la gravure.
La pièce est stockée, elle est ensuite lavée.
Lors de la découverte, on n'a pas vu les gravures. Ben non, car elles sont limite invisibles, donc on n'a rien vu lors de la découverte. Donc on a coté la pièce, comme on sait faire, on l'a conditionnée à côté. À ce moment-là, les journalistes viennent sur le site d'Angoulême et on me demande d'aller recevoir les gens. Et au dernier moment, je demande à mon collègue Laurent Bernard, « Tiens, Laurent, est-ce que tu peux nettoyer cette plaquette de manière délicate ? On n'est pas à l'abri d'une gravure. » Et un quart d'heure après, on entend un hurlement dans le centre-ville d'Angoulême, à proximité de la gare, où mon collègue met en avant la découverte du cheval.
Valérie Ferruglio, vous espériez une gravure ?
Exact. À l'invitation de Miguel qui me dit « On ferme le chantier dans 3 jours, viens nous voir, ça va être fermé, viens voir. » Je dis « Ah non, j'ai pas le temps, écoute, le seul moyen que j'ai de venir te voir, c'est que tu me découvres des gravures, sinon moi je me déplace pas. » Et voilà, j'ai passé commande et je l'ai eu.
Il faut passer commande sur un site archéologique, il faut rêver ce que l'on peut trouver.
Non, ça marche jamais. Tout ça, c'est opportuniste. On n'avait pas vraiment prévu de trouver une telle œuvre dans un endroit ouvert, hein, et un site comme Angoulême. Non, on n'avait pas du tout prévu ça. Et surtout pas cette gravure représentée de manière très réaliste.
Tous les galets sont lavés par les archéologues pour trouver des gravures ?
La majorité des roches font l'objet de toute façon d'une observation, et bien entendu d'un lavage et aussi d'un marquage. Il n'est pas dit qu'on l'aurait étudié tout de suite. Éventuellement, on aurait pu abandonner en tout cas ce type d'objet pour une étude un peu plus tard et on a pu redécouvrir en fin de compte la plaquette bien plus tard.
Qu'est-ce qu'a vu votre archéologue laveur ?
Si je vous raconte l'histoire, la véridique histoire de la découverte de la plaquette d'Angoulême, ça comporte une grossièreté, mais je me permets quand même de vous en faire part. Donc mon collègue Laurent va nettoyer la plaquette dans l'Algeco, dans notre laboratoire, et d'un seul coup on entend un bruit qui vient fracasser le silence d'Angoulême, et Laurent hurle, coach, putain, il y a un bourrin. Voilà, ça c'est vraiment, pardonnez-moi, mais c'est l'origine de la découverte de la plaquette d'Angoulême. Et en effet, il m'a apporté la gravure, on a regardé ça, il y avait des journalistes en plus, donc il fallait rester prudent. Et en fin de compte, on a eu un déclic assez rapide, c'est plaquette gravée, un style assez réaliste, stratigraphie stricte, fiable. Et là, tout de suite, voilà, c'est là où démarrent les questionnements. Et on s'est aperçu à ce moment-là qu'on avait découvert quelque chose d'assez exceptionnel, en tout cas, à mon niveau. Et on s'aperçoit que oui.
Valérie Ferrigliot, il y a bien un cheval ?
Ah oui, c'est indubitable, un très beau cheval. Et c'est surtout la particularité de l'esthétisme de cette gravure qui fait que c'est une découverte majeure pour cette période de l'Asilien récent. Et ouais, c'est un très beau cheval de très belle facture, très bien proportionné, d'un naturalisme exacerbé, très poussé, avec beaucoup de force de détail jusqu'au micro-poil du pelage, et un rendu aussi de la troisième dimension, de la mise en perspective des pattes, enfin vraiment super truc.
Oui, mais il n'a pas de tête.
Ah oui, alors ça manque, parce que justement, les têtes révèlent aussi beaucoup de choses dans les traitements graphiques du rendu de la réalité, notamment voilà, le rendu des détails anatomiques, des yeux, des narines, de la bouche, tout ça, ça nous dit aussi beaucoup sur les détails qu'on a envie de représenter et comment on veut rendre compte de la réalité. Alors, il n'a pas de tête, alors là, les études nous diront si c'est volontaire, effectivement, puisqu'il y a une cassure du support et qui a emporté, effectivement, toute la partie avant du cheval à partir de la moitié du cou. Les études nous le diront si c'est volontaire, ce bris du support, ou si ce sont les aléas de la conservation. Mais visiblement, il y a eu une percussion. Après, est-ce qu'elle a été dirigée dans la volonté absolue de faire une partition du support pour avoir les têtes d'un côté et le corps de l'autre ? L'avenir nous le dira au gré de l'étude.
Alors là, on est bien sûr sur de l'art mobilier, donc un très grand galet gravé. Est-ce que l'on connaît des chevaux ou d'autres animaux acéphales dans l'art rupestre, donc dans les cavernes ?
Oui, la partition des animaux est fréquente. Soit on représente que des segments, soit on peut les représenter avec une partie du corps manquante. L'incomplétude, en disant des silhouettes animales, est fréquente, que ce soit sur l'art mobilier ou l'art pariétal. Ça existe de tout temps dans tout le paléolithique récent.
Miguel Billard, on est pourtant sur une sorte de campement, de halte de chasse, quelque chose de tout à fait temporaire.
Tout à fait. Alors, ce qui nous permet de dire ça, bien entendu, c'est à la fois la réalisation de l'outillage lié à la chasse. On a aussi de l'outillage domestique, ce qui prouve qu'ils sont restés un petit peu plus de temps. Ils n'ont pas pratiqué que la chasse. Ils ont aussi traité les carcasses. On va avoir l'outillage domestique qui est lié au traitement des peaux, au découpage des tissus carnés, de la viande, et bien sûr d'autres activités dont on n'a pas trace malheureusement aujourd'hui. On va avoir aussi des structures de combustion, des foyers. Donc, il y a eu consommation sur place, on le sait. Mais on peut imaginer, même pas imaginer, on peut certifier que grâce à ces informations liées à la variété de l'outillage, que les préhistoriques sont restés pas longtemps, mais en tout cas il y a eu d'autres activités liées à la chasse sur le site d'Angoulême.
Mais là, on n'est pas lié à la chasse, visiblement, on est lié plutôt à une activité artistique. Le galet, il viendrait d'où ? Il serait local ou peut-être d'un peu plus loin, charrié par exemple par la Charente ?
Non, pas du tout. Le matériau est local, hein. C'est une étude qui a été réalisée par Grégory Dandurand, et il est strictement local. Alors en effet, il a un état de surface altéré, c'est-à-dire qu'il n'a pas été trouvé en position primaire, les cortex sont un peu délavés. Mais ça ne veut pas dire qu'il provient de 20 ou 30 kilomètres aux alentours. Donc on sait qu'il est local, il vient sûrement éventuellement de la cuesta, ce qu'on appelle du plateau d'Angoulême, et il aurait peut-être en effet migré jusque... peut-être collecté par les chasseurs pour pouvoir produire, je dis produire, mais éventuellement, il y a quelques coups de percuteur dessus. C'est-à-dire que le bloc a été testé. On sait que les Asiliens sont capables de produire des outils sur n'importe quel type de matériau. Et on peut voir, en effet, quelques éclats qui ont été détachés à l'aide d'un percuteur. Donc, éventuellement, cette plaquette aurait pu faire l'objet d'un tri pour être transformée en outil. Mais vu son état de surface et sa qualité, qui n'est pas excellente pour la production d'outillage, de lames de silex ou d'armature, son aspect différent du reste des matériaux fait que cette ardoise, ce tableau, a été privilégié pour dessiner des animaux dessus.
C'est un beau support, Valérie Ferrigliot, pour dessiner sur cette dalle.
Alors sa surface relativement plane en fait un bon support, effectivement, pour tracer. Après, ce qu'on ne sait pas, ça on pourrait le savoir en expérimentant, si on trouvait la même qualité, le même matériau, c'est quelle était la nature du trait au moment où on gravait sur une incision fraîche, quel était le contraste qui était généré à ce moment-là. Là, ce qu'on a, nous, c'est une patine générale qui a donné la même couleur au fond du trait et à la surface. Donc une lecture extrêmement difficile. Il faut avoir l'aide d'un éclairage rasant pour pouvoir faire ressortir en ombre et lumière les incisions. Peut-être qu'à l'époque, au moment où le silex entamait la surface, ça créait un contraste, soit blanc, soit foncé, par rapport à la surface, et donc une lecture très immédiate à la manière d'une craie sur un tableau.
Vous avez, j'imagine, regardé de plus près. Vous avez vu autre chose apparaître petit à petit ?
Moi, directement, avec mes collègues, non. Enfin, mes collègues et moi, non, on a juste aperçu la silhouette du cheval. Il a fallu attendre l'intervention de Valérie pour qu'elle nous dévoile le reste des animaux gravés et représentés sur la plaquette.
Parce qu'il n'y a pas qu'un cheval.
Non, effectivement, la lecture était rendue possible par des photos en lumière rasante, et surtout en lumière rasante mais tournante, en faisant ressortir à chaque fois que la lumière est oblique par rapport à l'incision, en faisant ressortir donc toutes les orientations différentes des traits. Et c'est comme ça, en faisant un relevé quasiment à l'aveugle, en essayant de façon exhaustive de représenter toutes les incisions, que on a pu donc extraire différentes silhouettes. Le cheval se voit le plus parce que c'est celui qui est le plus profondément incisé par des passages répétés d'outils, mais ensuite on s'est révélé une silhouette d'herbivore qui tendrait à être plutôt une silhouette massive de roc, qui est associée à des faisceaux de traits qui suivent le contour exact de l'animal, et ces faisceaux de traits, qui sont des traits parallèles entre eux de façon bilatérale, étaient le décor habituel qu'on connaissait pour la zinia récente sur des galets notamment. Et voilà, on n'aurait eu que ça, c'était pas étonnant pour la période, ça confirmait, voilà, ça pouvait étendre un peu l'aire géographique de répartition de ce type de décor. Mais l'association avec des animaux, là, était exceptionnelle. Et après, on a aussi une autre silhouette, toujours acéphale, parce que les orientations sont les mêmes, et donc la partie emportée par la cassure ont enlevé aussi les têtes de ces animaux-là. Un probable cervidé, donc beaucoup plus gracile que le cheval. Et puis une silhouette assez étonnante d'une partie supérieure de cheval, mais alors ce coup-ci très schématisé, très stylisé, exécuté en quelques traits, mais où on reconnaît quand même la silhouette d'un cheval.
Il y a des animaux sur les deux faces ?
Oui, alors la face que nous on appelle B, comme les 45 tours, également gravée. Alors on n'a pas pu l'étudier de façon très précise, on a juste un petit croquis rapide, mais visiblement il y a aussi un arrière-train probablement aussi de cheval.
Et puis votre cheval, il a des traits tout autour de lui. Est-ce que l'on pourrait y voir une sorte de fléchage ?
J'adorerais pouvoir argumenter sur ce thème-là, bien entendu. Le fait que le site asilien d'Angoulême nous offre aussi une quantité astronomique de pointes de flèches, j'adorerais que ma collègue puisse me dire « oui, en effet, ce sont des flèches ». Mais malheureusement, restons scientifiques. Et au jour d'aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas beaucoup d'interprétations pour lire ces traits parallèles qui se trouvent sur le pourtour de cet auroch que j'aurais bien vu flécher personnellement.
Donc ce n'est pas un cheval mourant ?
Non, il a l'air bien campé sur ses membres, il a l'air bien vivant, la tête redressée. Les traits que l'on distingue aussi, qui sont assez profondément gravés, un peu de la même nature que le cheval, sont vraiment en rapport avec l'autre animal qui, lui, a été exécuté en faisant pivoter la pièce à 180 degrés. Donc c'est superposé au cheval, mais en même temps en opposition, enfin à 180 degrés par rapport à lui, dans les mêmes proportions, c'est les mêmes volumes, disons. Et ces traits-là sont associés à cet animal-là qui serait plutôt un auroch. Donc ça rappelle aussi la gravure récemment découverte sur le site fouillé par Nicolas Nodino, étudié par Camille Bourdier, de ce qu'ils ont appelé l'auroch rayonnant, avec des faisceaux de traits qui entourent sa tête.
Mais qui est un petit peu plus ancien et qui appartient donc à l'asilien ancien. L'asilien, on est à peu près vers 12 000 ans ?
À peu près, voilà, 12 000 ans. Là, on attend les datations parce que, justement, les informations concernant le paléo-environnement vont être riches sur le site d'Angoulême. Donc, on risque d'avoir des datations bien précises, comme on a eu déjà sur d'autres sites. Mais on se situe à peu près vers 12 000 ans avant notre ère, oui.
L'importance de l'art mobilier dans les grands campements de plein air, c'est quelque chose de très, très rare en général.
Les sites de plein air ne sont pas non plus légion. On n'en connaît pas beaucoup, et encore moins pour l'asilien récent. Il faut saluer aussi le travail de l'INRAP qui nous fait découvrir des sites que jusque-là on n'envisageait pas, parce que voilà, toute la préhistoire s'est construite sur la visite répétée des grottes et des abris sous roches, puisque c'était là qu'à coup sûr on allait trouver des restes de témoignages des hommes préhistoriques. Après, pour tomber sur un site de plein air, un campement installé, il n'y a que la chance, et notamment donc, le travail de l'INRAP qui permet de quadriller le territoire, et aussi voilà, la politique française qui fait qu'on a la possibilité, de par la loi, de découvrir ces sites-là, et ce qui fait que ça nous fait aussi varier nos analyses et même bouger nos paradigmes et nos points de certitude jusque-là. Voilà, au gré des découvertes, on change un petit peu, on adapte et on découvre de plus en plus près la vie quotidienne de ces hommes.
Oui, mais pourtant, par exemple, je pense à Gunnersdorf en Allemagne. Vous allez me dire que c'est un petit peu plus ancien, puisque c'est du Magdalénien. On a retrouvé plein de plaquettes gravées. Regardez le grand site d'Étiole dans le bassin parisien. On a aussi un cheval, une sorte de cheval crachant peut-être quelque chose, avec peut-être aussi un personnage totalement hybride, mi-homme, mi-animal.
Alors là, je me permets d'intervenir, mais j'espère ne pas dire de bêtises. Oui, mais le cheval d'Étiole, il est magdalénien, c'est pas le premier. Là, pour l'asilien récent d'Angoulême, c'est le premier cheval dessiné de manière réaliste qu'on a découvert sur ce site.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
C'est-à-dire que vous seriez sur le dernier objet figuratif réaliste du paléolithique jamais découvert ?
Exactement, c'est une très bonne définition. Jamais découvert jusqu'ici. C'est déjà le thème animalier qu'on croyait abandonné, à la faveur donc de ces dessins basés sur des formes géométriques très simples, très point-ligne associées, et surtout le rendu de ces animaux, parce que un petit peu plus tard, on va revenir sur le thème animal dans une autre culture, mais la façon naturaliste, c'est-à-dire très très proche de la réalité, avec tous le respect des proportions anatomiques et les forces de détail sur les insertions musculaires, le pelage, etc. Là, on n'a pas l'équivalent dans la toute fin du paléolithique récent.
Donc si je comprends bien, c'est une erreur de préhistoriens. Les préhistoriens avaient fouillé le mas d'Asile, avaient créé une industrie appelée asilienne, avec des galets, avec des taches de couleur. Il n'y avait jamais eu de représentation figurative. On pensait qu'on était sur le passage donc de la fin du figuratif vers l'abstrait, et il n'en est rien.
Oui, alors toutes les définitions linéaires de l'évolution de l'art, effectivement, ne tiennent pas la route. On le sait depuis la découverte de Chauvet, qui serait la plus vieille grotte ornée de l'Europe occidentale, où effectivement, on a tout est inventé déjà, tout le naturalisme, le rendu de la troisième dimension, le travail réellement artistique dans la matière est déjà inventé. Il peut y avoir quelques allers-retours, des styles qui s'imposent à des périodes, des choix dans les thèmes qui varient, mais voilà, on n'est pas dans une évolution linéaire du schématique, du balbutiement jusqu'à un apogée, c'est pas, ça existe pas.
En tout cas, un de vos chevaux est dans une position très particulière.
Celui qui est plus schématique, effectivement, a l'air de tomber. Enfin, pour exécuter chaque image qui se superpose les unes aux autres, on a une rotation de 30 degrés, disons, pas un vrai quart de tour, pratiquement aussi un petit quart de tour, de chaque animal. Alors, est-ce que c'est lorsqu'on va étudier la chronologie des tracés, ce qu'on n'a pas encore fait, est-ce que l'on va voir que ces quarts de tour correspondent à la chronologie, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on place un animal, on fait pivoter la pierre, auquel cas on aurait la sensation que les animaux tombent, se dirigent vers un point. Ensuite, on a la volonté aussi de rendre la troisième dimension et de rendre le plan opposé au spectateur, notamment les pattes, les quatre pattes sont représentées, mais les deux pattes opposées au spectateur sont décalées par rapport à celles du premier plan, et on trouve des astuces graphiques pour rendre compte de cette troisième dimension. Donc ça peut être les traits qui ne se rattachent pas aux contours qui vont laisser une réserve pour montrer qu'elles sont en arrière-plan. Et puis elles sont comme vues de trois quarts, comme si on voyait les quatre membres de trois quarts, alors que le corps est parfaitement de profil strict.
Ils sont en position de course, ils sont en position de marche, ils ont des positions particulières ?
Non, à part l'avancée de ces membres pour qu'on les voit, pour pas qu'ils soient cachés par les membres du premier plan, ils sont relativement statiques, notamment les appuis des sabots, voilà, sont pas en position particulièrement, un sabot relevé, une patte repliée, c'est relativement statique.
Miguel Biard, L'asilien, c'était quand même considéré comme une industrie de piètre intérêt.
Peut-être pas de piètre intérêt. En revanche, c'est sûr que la culture asilienne, contrairement aux prédécesseurs, n'ont pas une technologie extrêmement sophistiquée. Alors, elle l'est, en vrai. Quand on dit pas sophistiquée, c'est encore un point de vue de préhistorien et non pas de préhistorique. Les asiliens ont bien entendu vécu pendant plus de 2000 ans et tout s'est très bien passé. C'est sûr que à cette période-là, il y a des changements technologiques. C'est sûr qu'on ne va plus produire avec les mêmes techniques l'outillage à la fois domestique ou de chasse. Mais justement, la découverte de la plaquette va renforcer les lettres de noblesse de cette culture asilienne qui parfois a été prise pour une culture un peu frustre. Et cette découverte va pouvoir en effet rendre plus sensible, en tout cas, cette culture asilienne.
Alors il faut parler quand même aussi d'une grande découverte qui a eu lieu il y a 2 ans, qui a été trouvée en Bretagne, le rocher de l'impératrice, bien sûr l'émission en avait parlé, une découverte qui est à peu près dans cette lignée, mais un tout petit peu plus ancienne.
Oui, ça relève de l'asilien ancien. Alors bon, c'est des distinctions de spécialistes, mais bon, qui nous reportent quand même quelques 2000 ans antérieurs. Mais voilà, ce qu'on découvre, c'est qu'il y a une association formelle qui est possible de faire sur la façon de rendre compte de la troisième dimension, encore une fois, sur les détails anatomiques, le pelage, le fait aussi de dessiner de façon différentielle en utilisant la gravure profonde, la gravure plus fine, plus légère, le fait de dessiner sur les deux faces, la thématique aussi, on retrouve le cheval, le roc dans les deux sites. Un lignage qu'on peut tracer à distance, déjà à distance géographique, mais aussi à distance temporelle, entre ces deux sites. Et tous deux se rattachent aussi à une tradition plutôt magdalénienne, dans la façon de camper les animaux et de rejoindre cette expression naturaliste de la faune.
Valérie Ferruglio, vous écoutez, j'ai l'impression que cette découverte montre que nous ne sommes pas dans une rupture avec l'art et les codes de la préhistoire paléolithique.
Eh bien, vraisemblablement non, oui. Cette rupture qui nous plaisait bien intellectuellement voilà, est un petit peu balayée par ces découvertes. Bon, c'est un petit peu notre sort à nous, préhistoriens, d'être un petit peu malmenés par les découvertes et de remettre en cause à chaque fois nos définitions. Mais voilà, ainsi va la vie du scientifique et heureusement. Et c'est très bien parce que, de toute façon, le but ultime qui est de mieux connaître ces gens, la constitution de leur société, leur vie de groupe nomade, voilà, c'est le but à atteindre. Et grâce à ces découvertes, on s'approche, on n'y parvient pas exactement, mais on s'approche, pas petit pas, mais mesuré, mais certain.
J'en reviens à vos traits autour de votre cheval. Est-ce que l'on peut faire une relation entre ces traits et ce cheval et le fameux roc retrouvé donc en Bretagne, à Plougastel-Daoulas, le rocher de l'impératrice, qui lui possédait des sortes de rayonnements autour de lui?
Alors est-ce que c'est le même message qu'est colporté? Alors on aimerait bien que celui du rocher de l'impératrice soit complet aussi avec son corps. Là on n'en a que la tête. Mais nous aussi, on aimerait bien avoir la tête. Voilà, si on pouvait recoller les deux sites, ça nous arrangerait bien. Donc nous, on n'a que le corps et eux, donc la tête. Au rocher de l'impératrice, c'est vraiment un rayonnement, c'est-à-dire que les traits convergent vers la silhouette. Nous, elle suit de façon orthogonale le pourtour de l'animal. Ce qui est intéressant pour Angoulême, c'est que c'est vraiment un motif qui est vraiment ancré dans l'asilien récent, qui ne déroge pas dans la chronologie, contrairement à la représentation animale.
Miguel Biard, la période asilienne est une période de bouleversement climatique tout d'abord.
Oui, tout à fait. Nous sommes vraiment dans une période de transition climatique entre le climat froid et le climat tempéré. Et évidemment, il y a des bouleversements, il y a des changements importants. À la fois la faune, la flore, le comportement humain, le modèle d'occupation, peut-être leur façon de chasser, leur façon de se déplacer aussi dans des nouveaux territoires, et aussi des changements techniques. Donc ils vont transformer leur façon de produire leurs outils et leurs armes de chasse. Donc voilà, c'est toujours fait l'image de l'asilien, c'est cette grande période de rupture, à croire que en effet tout s'est transformé à cette époque-là. Sauf l'art peut-être.
Valérie Ferruglio, je sais que vous vous posez une question que l'on pourrait formuler de la manière suivante. Peut-on imaginer que le fait symbolique vive en autonomie, en suivant ses propres aléas, sans cause extérieure?
Oui, c'est une question qui me préoccupe, parce que moi j'aime bien être tout près de ces artistes que d'aucuns hésitent toujours à qualifier d'artistes, mais quand on voit le travail qu'ils ont produit, je ne sais pas quel autre mot on pourrait trouver. Et voilà, un artiste, il est inscrit dans sa société, et puis parfois, on le sait dans l'histoire, soit on lui impose des choses, parce qu'on sait que la puissance de l'art est importante au niveau visuel, au niveau idée, et soit on lui impose des choses, soit on le laisse un petit peu plus libre de créer ce qu'il veut, et donc au travers de ses productions, nous, il n'y en a plus que ça pour raisonner, c'est ce qui est parvenu jusqu'à nous. Est-ce qu'on peut lire justement à l'envers qu'est-ce que cet artiste a subi comme pression, comme diktat de la société pour être capable de dessiner les choses telles qu'il les a rendues? Et là, ce qui est intéressant ici, c'est que on a cet art naturaliste qui est toujours là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que il nous manque des jalons, on n'a plus qu'une vue en pointillé depuis les débuts du politique récent jusqu'à la fin, et que finalement cet art n'a jamais disparu? Est-ce que c'est juste par manque de données archéologiques? Ou est-ce que c'est un retour en arrière? Est-ce que parce que, justement, comme Miguel le précisait, les contraintes environnementales font qu'on est dans une pression et dans des doutes et dans des changements de société tels que on revient à des anciennes valeurs, on revient à des anciens concepts, à des anciens symboles, on se replie, comme aujourd'hui l'obscurantisme revient au galop, voilà. Est-ce que cette société est tellement en rupture, en tension, qu'il faut que l'art vienne en appui et rapporte des certitudes? Donc il nous manque des éléments évidemment pour raisonner, mais effectivement ça dit quelque chose de la société et de son inscription dans l'environnement et dans son quotidien.
En fait, l'idée aurait été simple, le climat change et l'art change par la même occasion. Ça marche pas du tout.
Oui, on aime bien aussi raisonner par des raisonnements plus simplistes, ça rassure toujours. Non, c'est plus complexe que ça, et heureusement. Et justement, ça nous ouvre sur d'autres horizons en se rapprochant de la pensée humaine, et c'est ça qui est chouette.
J'imagine que les populations d'Angoulême, ou les habitants d'Angoulême, y verraient forcément une BD. Moi, je suis pas très très chaud pour ce genre d'hypothèse. En revanche, quelque chose de narratif, ça, cela pourrait marcher.
Ce qui nous interroge aussi, c'est les superpositions sur un même support des dessins qui viennent oblitérer les précédents et qui rendent parfois, c'est le cas aussi ici, une lecture très très difficile de l'ensemble. Et voilà, on se dit, pourquoi venir effacer avec une autre représentation? Pourquoi rendre un embrouillamini de traits quelque chose quand on individualise les animaux, on voit qu'ils sont extrêmement soignés et qu'on y a passé du temps pour les rendre de façon esthétique? Cela intervient tout au long du paléolithique récent, même en art pariétal, quand il s'agit de gravures, où on vient superposer de façon répétée les thèmes. Alors, plusieurs interprétations sont possibles. En tout cas, ce qu'on est sûr, c'est que ce n'est pas une volonté de représenter pour faire voir quelque chose comme nous, on accroche, on le fait avec nos tableaux et où on voit un sujet, on le comprend d'emblée. C'est une volonté d'ajouter des choses. Alors, soit on les ajoute en même temps qu'on raconte une histoire. On vient mettre un cheval et on raconte le symbole du cheval, et tout le monde comprend ce qu'il signifie, évidemment, puisque nous, on a perdu ces codes-là, mais eux le comprenaient. On y ajoute un autre animal, un autre thème animalier, et ça vient dire autre chose. Est-ce que c'est ça? Et en même temps, on raconte, il y a une dynamique. Ou est-ce que il faut, si on met un cheval, il faut l'associer à un autre animal, parce que, du coup, le message va être différent, parce que le deuxième animal va anéantir la signification du premier. Voilà, plein de champs sont possibles, mais ce qu'on est sûr, c'est que ce n'est pas un art de la représentation comme nous on l'envisage dans nos musées et pour montrer le quotidien et ou, par exemple les animaux qu'on veut chasser le lendemain, les animaux qu'on a mangés la veille, ce n'est pas du tout ça.
Miguel Biard, Valérie Ferriglio parlaient de chansons.
On peut parler bien entendu de tradition orale dans ces groupes-là, soit par le conte, soit par le dessin, tout à fait, ou soit par le chant. Alors après l'interprétation de la plaquette, évidemment, on peut partir dans plusieurs hypothèses. Moi, pour ma part, elles ne sont pas aussi précises et réfléchies que ma collègue Valérie. On a aussi peut-être affaire à une liste de courses d'un chasseur pour aller récupérer les bestioles pour le dîner de ce soir.
Carbone 14 est réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Stéphane Desmonts et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr, retrouver plus de 300 archives sur le site enra.fr. La semaine prochaine, nous évoquerons les premières fois avec Nicolas Tessandier du CNRS.